Il est 9h.
Le journal est présenté par Camille Magnard.
Bonjour. La tectonique géopolitique du Moyen-Orient entre dans une nouvelle phase à haut risque. Nous reviendrons en début de journal sur la démission fracassante hier du Premier ministre libanais Saad Hariri, signe d'un durcissement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Nous sommes sortis de la trêve du tous contre Daesh, nous expliquera le spécialiste de la région Fabrice Balanche. Dans les Antilles françaises, deux mois après le passage de l'ouragan Irma, Édouard Philippe vante la reconstruction exemplaire menée par la France. Qu'en disent les habitants qui ont tout perdu et récupéré bien peu pour le moment. Reportage à suivre de Mathieu Mondoloni. Dans un mois, ce sera l'élection du président du parti Les Républicains. Avec Estelle Schmitt, nous verrons comment les deux outsiders, Florence Portelli et Maëlle de Calan, tentent d'exister dans la campagne face à Laurent Wauquiez. Et nous reviendrons également sur la déclassification des archives de la CIA sur la mort de JFK. À Londres, The Guardian a épluché les documents dévoilés et on sait un peu plus sur l'énigmatique Lee Harvey Oswald. Le Liban à la croisée des chemins. On y apprenait hier la démission surprise du Premier ministre Saad Hariri. Il était aux commandes du gouvernement depuis le mois de janvier. Il renonce à ses fonctions, explique-t-il, par crainte pour sa vie. On se souvient que son père, Rafik Hariri, avait été assassiné en 2005. Aujourd'hui, selon Saad Hariri, la situation dans le pays, mais aussi dans toute la région, est devenue irrespirable à cause de l'influence déstabilisatrice de l'Iran et de son allié libanais, le Hezbollah. Saad Hariri a annoncé sa démission hier depuis Riyad, l'Arabie Saoudite qui le soutenait et qui hausse le ton face à Téhéran en faisant sauter le pion Hariri. Précision depuis Beyrouth avec Nicolas Feldman.
Pour les parlementaires chargés de trouver le nom du prochain Premier ministre libanais, l'équation s'annonce compliquée. Le chef du gouvernement devra faire l'unanimité, aussi bien auprès des partisans de l'Arabie Saoudite que de ceux de l'Iran. Les deux pays, engagés dans une lutte d'influence dans la région, sont en guerre ouverte en Syrie, au Yémen ou en Irak. L'accord fragile qui avait porté l'année dernière Saad Hariri à la tête du gouvernement a permis de préserver le Liban à l'écart des violences de la région, mais depuis plusieurs semaines, des responsables saoudiens remettent en cause ce gouvernement et ils multiplient les attaques contre le Hezbollah libanais, allié de l'Iran, accusé d'être une formation terroriste au Liban. Riyad est d'ailleurs soutenu dans son offensive par l'administration de Donald Trump qui s'en prend elle aussi à l'Iran et menace de sortir de l'accord sur le nucléaire iranien ou bien réclame encore des sanctions économiques contre Téhéran. Avec la démission de Saad Hariri annoncée depuis Riyad et non depuis Beyrouth, l'Arabie Saoudite semble en tout cas marquer son retour sur la scène politique libanaise et sa volonté de contrer l'influence iranienne dans le pays.
On le comprend, la démission de Saad Hariri au Liban dévoile l'entrée de tout le Moyen-Orient finalement dans une période de turbulence politique plutôt inquiétante. C'est en tout cas l'analyse du chercheur à l'université Lyon 2, chercheur invité également à Stanford aux États-Unis, le spécialiste du monde arabe Fabrice Balanche.
Le fait qu'Hariri soit le Premier ministre, ça voulait dire qu'il y avait un certain apaisement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, lié notamment à cette union sacrée dans la région contre l'État islamique. Aujourd'hui que l'État islamique va être complètement défait, il n'y en a plus que pour quelques mois, eh bien, on a toutes ces tensions régionales préexistantes au phénomène de l'État islamique qui sont en train d'être exacerbées. Donc effectivement, l'Arabie Saoudite décide de relancer le combat contre l'Iran sur tous les fronts. Il faut dire que le nouveau roi d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, aujourd'hui, il est bien installé au pouvoir et il peut lancer sa politique. Et puis, on va voir aussi les problèmes entre la Turquie et les Kurdes dans le nord de la Syrie qui vont réémerger. Là, on a eu un moment de grâce là, avec grâce à Daesh, on va dire. Et là, maintenant, c'est terminé. Les tensions régionales et internationales reprennent comme avant au Proche-Orient. Et la démission de Hariri en est un des signes.
Fabrice Balanche, joint par Eva Jednak, l'Arabie Saoudite en plein bouleversement également sur sa scène intérieure, avec cette véritable purge politique et économique qui a été lancée hier par le prince héritier Mohamed Ben Salman à la tête d'un comité anticorruption créé hier. Il a fait arrêter des dizaines d'actuels ou d'anciens ministres saoudiens, mais aussi 11 princes, dont le très puissant milliardaire Al-Walid, qui voit ce matin la valeur de son action à la bourse de Riyad chuter de 10%. L'Arabie Saoudite, enfin, toujours en guerre au Yémen contre les Houthis chiites soutenus par l'Iran. Sachez que ce matin, deux attaques terroristes ont tué au moins 5 soldats dans la ville d'Aden, des attaques qui visaient des QG des forces gouvernementales. Un responsable des forces de sécurité yéménites accuse Al-Qaïda d'être derrière ces attaques. Il est 9h passé de 5 minutes sur France Culture. La suite de ce journal nous emmène dans les Antilles françaises où se trouve depuis hier et jusqu'à demain Édouard Philippe, le chef du gouvernement français, venu constater les efforts de reconstruction, de normalisation deux mois après les dégâts considérables causés par l'ouragan Irma sur les petites îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Quand les habitants critiquent la lenteur des indemnisations et le peu de moyens publics qui leur est alloué, Édouard Philippe, lui, a salué hier depuis la Martinique une reconstruction exemplaire. Un reportage à Saint-Martin de Mathieu Mondoloni.
Face à la mer, plusieurs petites maisons semblent posées sur le sable. Certaines ont les murs explosés, d'autres le toit arraché. La plupart sont abandonnées, mais pas celle d'Estelle qui vit là avec son mari et leur petite fille de 7 ans.
Il n'y a plus que les murs, il n'y a plus de fenêtres et il n'y a plus de volets.
Seul le premier étage a été épargné par Irma et reste habitable. Ils aimeraient bien reconstruire, mais sans l'argent de l'assurance, c'est pour l'instant impossible.
L'expert pour la maison est passé seulement la semaine dernière. Je sais que mes voisins, eux, ça fait plus d'un mois que l'expert est passé. On leur avait dit qu'ils allaient toucher rapidement de l'argent. Ils ont toujours rien touché. C'est vrai que pour les habitants, c'est très long.
À bord de son gros 4x4, Robert Mercadal sillonne quotidiennement l'île pour superviser des chantiers de travaux publics. La reconstruction exemplaire, il est pour, mais pour ça, il faut des moyens, dit-il, et les moyens tardent à arriver.
Les gens ne peuvent pas rester dans la rue non plus ou chez le voisin. Puis si ça avance pas, ils vont commencer à mettre 4 briques, 4 tôles, et ça va aller dans ce sens.
Dans la résidence qu'il gère à Marigot, Nicolas n'a pas attendu l'argent des assurances ni les nouvelles normes. Avec quelques ouvriers, il installe des plaques de tôle provisoires sur le toit.
Depuis deux mois, on prend les choses en main parce qu'on n'a aucune direction. Donc maintenant, c'est le système D, la démerde.
Avec la multiplication des phénomènes cycloniques dans le futur, tous craignent aujourd'hui un nouvel ouragan qui viendrait détruire ce que les habitants de Saint-Martin auront à peine commencé à reconstruire.
Mathieu Mondoloni sur l'île de Saint-Martin, où Édouard Philippe doit assister demain à la reprise des cours dans les écoles de l'île. La vie politique française, c'est aussi cette élection dans à peine plus d'un mois pour la présidence du parti Les Républicains. Le premier tour aura lieu le 10 novembre et une campagne sans grande passion est en cours entre le favori, l'actuel numéro 2 du parti et très médiatique Laurent Wauquiez, et ses deux outsiders, Maëlle Decalant, tendance jupéiste, et Florence Portelli de la famille Filloniste. Pas facile pour eux de faire entendre leurs différences, Estelle Schmitt.
Les Français le connaissent peu, mais ces derniers jours, ils ont pu découvrir le jupéiste Maëlle Decalant dans les médias, commenter l'actualité, critiquer des propos de Laurent Wauquiez. Il veut prouver qu'il est crédible, confie l'un de ses soutiens, mais surtout qu'il incarne une autre ligne, humaniste, libérale et européenne. Une droite qui a toujours sa place dans le parti, répète Maëlle Decalant. Quand Florence Portelli, elle, s'est faite plus discrète récemment, elle dose ses apparitions, explique son entourage, car comme François Fillon, dont elle est proche, elle pense que tout se joue dans la dernière ligne droite. Pas question donc de griller ses cartouches tout de suite. Elle se concentre sur le terrain, multiplie les rencontres avec les adhérents, comme Maëlle Decalant d'ailleurs, qui tient jusqu'à 3 réunions publiques par semaine. Tous deux auraient aimé confronter leurs idées avec Laurent Wauquiez à la télé, mais lui préfère un débat à 3 devant les militants. Des petits candidats également d'accord sur un point, le discours toujours plus à droite de Laurent Wauquiez pourrait leur être bénéfique. Plus il sera clivant et plus il nous apportera de voix, assure un proche de Florence Portelli.
Un dernier mot de politique avec ce soutien à peine voilé de Dominique Strauss-Kahn aux réformes menées par Emmanuel Macron depuis Marrakech où il était l'invité d'une conférence internationale hier. DSK a dit tout le bien qu'il pensait d'un chef de l'État qui, je cite, peut mener en 5 ans beaucoup des changements qui n'ont pas été menés ces 30 dernières années en France. Quant au PS, il est temps qu'il disparaisse pour ne pas avoir su accompagner la mondialisation, selon donc Dominique Strauss-Kahn. Nous revenons à présent sur ce déballage d'archives qui a beaucoup fait parler la semaine dernière, des milliers, des dizaines de milliers de documents classés sur la mort en 1963 du président américain Kennedy. Documents déclassifiés, ouverts à tous. Ce vendredi, encore une troisième série de dossiers de la CIA ont été dévoilés et le journal britannique The Guardian s'y est plongé. Il y a trouvé des éléments troublants sur le tueur désigné à l'époque, Lee Harvey Oswald. Les détails à Londres avec Aude Soufi.
C'est notamment un mémo de la CIA datant de 1975 qui a retenu l'attention du Guardian. Il indique que des recherches méticuleuses ont été effectuées et que rien ne prouve que l'agent ait utilisé Harvey Lee Oswald ni qu'il ait été connecté à la CIA de quelque manière que ce soit. La note précise qu'il n'était pas non plus employé par d'autres agences américaines comme le FBI. Voilà donc qui vient mettre un terme à une théorie populaire selon laquelle l'homme qui a abattu le président en 1963 aurait été un agent américain. Autre idée largement répandue, celle qui veut que Fidel Castro ait engagé Oswald pour se débarrasser de JFK. Là encore, les documents soulignent qu'il n'y a aucune preuve en ce sens. Mais cela ne répond pas à toutes les questions, comme par exemple, Pourquoi Oswald a-t-il demandé un visa pour l'Union soviétique et Cuba quelques semaines avant l'assassinat? Était-ce pour aller y vivre tranquillement, se demande la CIA, ou pour s'échapper rapidement après avoir commis son crime? La réponse à cette interrogation et à bien d'autres pourrait figurer dans les 209 documents qui restent à déclassifier. Mais il faudra encore attendre. Le président américain Donald Trump a repoussé de 6 mois leur publication, sur demande de certaines agences, pour leur laisser le temps d'examiner ces archives et éventuellement d'en supprimer certains passages.
Aude Soufi, la météo, enfin des orages sur le nord et les Normandies ce matin. Le ciel est gris sur quasiment tout le pays et ça va se dégager progressivement sur le quart sud-est et le nord-ouest en fin de journée. Température cet après-midi de 4 petits degrés sur les Alpes du Nord, 6 sur le Massif central, 9 à Paris, jusqu'à 15 degrés pour Nîmes et Marseille.